La première.
La première spéciale. Jean-Pierre Autier.
Mesdames et messieurs, bonjour. Jusqu'à 12h, jusqu'à midi, la première rend hommage à Marc Moulin. Une émission que cet homme plus que discret n'aurait sans doute pas aimé, mais tant pis. Il ne s'agit pas de faire du show, il s'agit de parler tout simplement d'un ami qui vient de partir et puis aussi d'écouter sa musique, la musique qu'il aimait. Alors, puisqu'on parle de la musique qu'il aimait, on commence avec l'artiste que Marc aimait le plus. Voici Miles Davis, So What. So what? Miles Davis, hommage à Marc Moulin ce matin avec plein d'amis, plein de témoignages et mes deux premiers invités, j'allais dire, c'est deux anciens grognards, c'est la vieille garde. Hein. Jean-Jacques Jaspers, bonjour.
Bonjour.
Et Hugues Lebège, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait votre carrière, vous, pratiquement ici dans cette maison avec Marc, non, Hugues?
Oui, en même temps, parallèlement, moi j'ai commencé à la radio à faire les journaux du soir. Je présentais le 23h à l'époque de Cap de Nuit et de King Kong. Et donc on a passé là pendant plusieurs années nos nuits ensemble. Parce que les nuits ne se terminaient évidemment pas avec la fin des émissions. Mais elles se poursuivaient dans les bistrots, ouais, dans les concerts. Et ça se terminait toujours très tard. Et il y avait déjà chez Marc cette chose absolument extraordinaire qui est à la fois la pertinence et l'impertinence. Donc quelqu'un qui était en même temps d'une culture incroyable, y compris d'une culture classique qu'il combattait, qu'il contestait par rapport à son père. Après, il s'est réconcilié avec cette culture-là. Mais il y avait aussi toute la découverte, je veux dire, King Kong, c'est la culture américaine des années 70, avec Jacques Becart, puis Michel Gueude. Enfin, on découvrait un monde avec lui, et pas seulement la musique, la littérature, le cinéma, le théâtre. Tout le monde est passé dans cette émission-là. Je veux dire, elle n'avait rien à envier à celle d'Arthur sur France Inter. C'était quand même une époque assez extraordinaire.
Ça veut dire, Jean-Jacques Jaspers, que Marc Moulin est devenu tout de suite une référence?
Oui, bah d'abord dans son milieu musical, parce que c'était quand même un innovateur extraordinaire. C'est quelqu'un qui a toujours été à l'avant-garde du point de vue musical. Mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est ce mélange de deux cultures, la culture musicale et la culture tout court. Vous savez, il a fait en même temps des études musicales, des études de Sciences Po et de Sciences Éco. Il aurait pu être commentateur économique aujourd'hui face à la crise que nous connaissons. Il aurait pu dire des tas de choses très, très pertinentes sur des tas de sujets. Et en même temps, il était toujours un peu en retrait par rapport à ça. Il voulait être à la fois, il était quelqu'un une référence, mais en même temps, il aurait détesté qu'on dise qu'il l'était. Hein, et c'était une modestie extraordinaire. Je disais tout à l'heure, c'était un dérideur, c'est-à-dire quelqu'un qui nous déridait, mais qui en même temps savait très très bien pratiquer la dérision, c'est-à-dire nous montrer le monde tel qu'il est à travers l'humour et à travers la distance.
Une personnalité, Hugues Lepège, complexe quand même, non, Marc? C'était quelqu'un qui, effectivement, était là, mais n'était pas là.
Oui, à la fois homme public et très discret. Mm-hmm. Je veux dire, il y avait tout, c'était un mélange permanent. Je le disais, cette culture classique et puis la culture... Il faut pas oublier non plus que la radio, à l'époque, c'est quand même quelque chose de encore très académique, très poussiéreux même. Mm-hmm. Et il utilisait des mots qui n'avaient pas droit à l'antenne à l'époque. Il faut dire aussi que tout à l'heure, on disait entre nous, au fond, pour votre génération, Jean-Pierre, c'était un père tutélaire d'une certaine manière. Mais je pense que Marc, moi-même et quelques autres, comme René-Philippe Daouin, par exemple, nous étions, nous, les fils d'Armand Bachelier. Mmh. Et Bachelier avait joué un rôle très important dans la construction de la conception de la radio de Marc. C'est lui qui lui avait fait découvrir FIP, la première radio musicale urbaine de France Inter, qui lui avait mis dans la tête de démarrer toute cette aventure qui va aboutir à votre radio-cité. Mmh. Et donc, il était à la fois, je dirais, dans l'innovation, et en même temps, cette innovation s'inscrivait dans toujours quelque chose de... Il n'y avait pas de perte de mémoire chez lui. Donc, c'est ça qui faisait cette richesse, cette complexité. Et puis, je voudrais quand même dire une chose aussi qu'on ne dira peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais Marc a été le premier pourfendeur de la culture médiatique aussi. Hein. Je dirais, ce petit bouquin, la surenchère, l'horreur médiatique, il était extrêmement sévère. C'est un homme qui a adoré le service public, mais qui en a fait une critique impitoyable aussi, qui était le plus grand pourfendeur de la publicité qu'on pouvait connaître, et surtout quand elle passait à la radio.
C'est terrible. Les mails, si je pouvais vous montrer les mails qu'il m'envoyait en disant « Il y a trop de pubs sur cette première !»
Et donc, c'est à la fois quelqu'un qui représente toute une culture et qui en même temps a été, je dirais, un critique absolument impitoyable, mais toujours avec aussi une très grande honnêteté intellectuelle. Ça n'était pas un militantisme obtus, c'était toujours une ouverture. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable.
Mais il n'était pas au balcon. Hein. Il était critique, mais en même temps, il était engagé. Il appliquait un peu cette maxime de Brecht qui disait « on peut critiquer l'opéra, mais il faut faire un opéra ». Donc, il était dedans, mais tout en étant dedans, ça lui donnait d'autant plus de légitimité pour être critique par rapport à son propre métier, par rapport à son propre destin.
Vous qui l'avez connu depuis, je dirais, les débuts, est-ce que c'est quelqu'un qui a changé, qui a évolué, ou avec vous, il était pareil qu'il y a 30 ans?
Moi, je n'ai pas constaté du tout jusqu'au dernier mois. Enfin, pour moi, Marc est toujours resté le Marc que j'ai connu, avec qui on travaillait, avec qui on allait à des festivals, avec qui on sortait le soir. Et pour moi, il n'y a pas de changement. Ce qui m'a frappé et ce qui faisait aussi, je pense, quelque chose de très particulier chez lui, qui moi m'est tout à fait étranger, mais je trouvais ça très très étonnant qu'il réussisse à la fois à travailler dans des choses extrêmement pointues, très intellectuelles, et en même temps dans la culture la plus populaire. Je veux dire, c'est des pièces de théâtre, des émissions de radio pour les plus grands publics. Il faisait les deux à la fois.
C'était sa fierté.
C'est sa fierté et je dirais son originalité absolue. Là, je connais peu d'hommes dans les moyens d'expression qui étaient capables de cumuler à la fois cette recherche intellectuelle très intransigeante, je dirais même, et en même temps cette accessibilité à tous les publics. Ça, c'est quand même exceptionnel.
Et dans l'humour aussi, c'était l'humour à l'anglaise, donc un humour d'understatement d'une finesse extraordinaire. Mais de temps en temps, et même souvent, il ne détestait pas un jeu de mots stupide et
ça,
un calembour
de
premier degré.
On le voyait Jean-Jacques au jeu des dico. Hein. Oui, il pouvait rire des plus pires conneries. Hein.
Absolument, oui. Mais ça fait partie du personnage, c'est tout à fait ça. Donc c'est...
Merci Jean-Jacques, merci Hugues d'être venu témoigner. On va écouter Jimi Hendrix. C'était la grande époque, en 1968. Voici Crosstown Traffic. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, hommage à Marc Moulin, c'était la musique de King Kong. Michel Gueude nous a rejoint. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Pierre.
Et Jean-Marie Seuilly, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez les assistants. Hein. Vous pouvez être fier d'avoir été assistant de Marc Moulin, comme moi d'ailleurs,
oui.
Un peu plus tard évidemment. Alors cette époque, c'était quoi? C'était Radio Crocodile, King Kong
Alors Marc faisait Cap de Nuit, émission de soirée qui avait été initiée par... son maître en radio, qui est Benoît Kersin, qu'il avait connu dans le milieu du jazz, évidemment, et qui avait initié cette école de radio qui est la radio cool. Parce qu'à l'époque, les gens parlaient avec une voix très... On en a parlé il y a quelques instants. Ouais. On parlait comme ça, dans le cadre de nos musiques de programmes légères. Veuillez écouter maintenant. Et donc, lui, il a introduit une radio de soirée très, très coin du feu, que Marc a reprise dans Cap de Nuit avec Marc Francard. Mmh. Et puis, en 72, ils ont lancé King Kong, qui était une émission de 4 heures, de 8 heures du soir à minuit. Et là, Marc a trouvé que 4 heures d'affilée, c'était un peu long. Donc, il a renforcé son équipe et il m'a demandé de venir co-animer avec lui.
C'est tout de suite devenu une référence, cette émission. Moi, je me rappelle, j'étais jeune, j'écoutais ça le soir. C'était extraordinaire, hein, Jean-Marie. Il y avait un ton nouveau, non?
Il y avait un ton nouveau. Puis, il y avait dans la programmation des choses étonnantes qu'on n'imagine plus aujourd'hui. C'était mélanger des chants de baleines avec des jazzmen finlandais. C'était travailler
avec... C'était à la mode à l'époque. Aujourd'hui, on se dirait, mais enfin, pourquoi? Mais à l'époque, ça se passait très bien.
Très bien, les chants de pygmées que Benoît Kersin allait enregistrer en Afrique, qui étaient mélangés avec des chants grégoriens, c'était en même temps James Brown et Little Stevie Wonder qu'il adorait. Il adorait tout ce qui était noir, il adorait la soul, il m'a dit plusieurs fois qu'il aurait voulu être noir en fait. Donc,
toute la dernière heure de l'émission, c'était uniquement jazz et soul.
Alors comment il faisait? Il vous laissait faire ou il surveillait tout de A jusqu'à Z?
C'était assez cadré quand même.
C'était assez cadré. Une des caractéristiques de Marc était de tout mettre en forme et puis de laisser aux personnes la possibilité de s'exprimer dans la forme qu'il avait définie. Donc que ce soit au niveau des interviews qui ont été faites, au niveau de la programmation, on savait ce qu'il aimait. Il aimait pas tellement la guitare, il aimait Jimi Hendrix, Larry Coryell, Jimi Hendrix, John McLaughlin et Jimi Hendrix, Philippe Catherine, et c'était le quasi-tout. Par contre, il avait un faible pour tous les claviéristes, ouais. Johnny Mitchell, Véronique Sanson, étonnamment, Elton John, Herbie Hancock, Joseph Vinyl, des tas de...
Oui, et on retrouve ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le mix entre la culture très pointue et la culture populaire. Elton John, c'était parfaitement bien dans l'émission. Il n'y avait pas de tabou là-dessus, c'était des bonnes chansons, c'était un bon musicien, donc c'était dedans. Mais ça pouvait aussi être effectivement un musicien de jazz totalement méconnu.
Michel Colombier,
voilà, des choses.
C'était déjà une référence à l'époque pour vous. Est-ce qu'il y avait, moi ce que j'ai connu à l'époque de Radio Cité, cette espèce de respect dans cette maison pour Marc Moulin?
Marc Moulin était l'un des rares animateurs aimés par les journalistes. Parce qu'à l'époque, les journalistes ne parlaient pas aux animateurs, c'était le bas peuple. Il vous snobait dans les couloirs. Et Marc Moulin était apprécié, ben, entre autres par la jeune génération de journalistes, ceux qu'on vient d'entendre, ouais. Lepage, Jespers, Dawan, tous ces gens-là. Mais il y avait un respect, oui, effectivement.
Et nous avons en ligne Jacques Beccard. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques Beccard, je suis très heureux de vous avoir en ligne, Jacques. Vous êtes très loin. Hein?
En effet, je suis à Bangkok, en Thaïlande.
Et Jacques
depuis pas mal de temps.
Et Jacques Beccard, on se souvient de vous dans les émissions du soir de Marc Moulin. Vous devez être, comme nous, très ému. Quel souvenir vous avez de Marc, Jacques Beccard?
D'abord, le souvenir d'un très grand ami. Nous sommes restés en contact jusqu'il y a encore quelques mois. Donc, nous ne sommes jamais vraiment quittés. Et puis, le souvenir d'un très grand homme de radio. Je crois que King Kong a été une véritable révolution dans la radio et j'ai rencontré souvent, plus tard, des anciens auditeurs qui m'ont dit tout ce qu'ils devaient à cette émission, tout ce qu'ils devaient à l'esprit que Marc Moulin avait infusé à cette émission et dans les émissions qu'il a fait avant et par la suite aussi.
Alors l'ouverture, justement ce qu'on parlait avec Hugues Lepage et Michel Goetz, ce côté à la fois très pointu et aussi souvent populaire, ça ne vous a jamais énervé ça, Jacques Beccard?
Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'était peut-être un des charmes et un des attraits de cette émission justement. C'est qu'on pouvait y parler de choses parfois très compliquées, très nouvelles, qu'on pouvait y faire entendre parfois des musiques très inattendues, est difficile, et en même temps, il y avait un aspect populaire, mais de très bonne qualité. Donc, il n'y avait jamais de démagogie dans ces émissions.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Jacques Beccard, depuis là-bas, bien loin en Thaïlande. Merci Jacques, et à bientôt.
Il faut dire que Jacques était d'abord un très très grand connaisseur de l'Amérique, il nous faisait des séquences sur la contre-culture américaine tout à fait extraordinaires, et lui-même est musicien contemporain, il était ami de John Cage, etc. Donc il nous faisait passer effectivement des choses tout à fait insolites, du genre John Cage joue aux échecs sonores, enfin des séquences tout à fait incroyables, enfin de musique expérimentale qui nous faisait découvrir.
Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de cette émotion depuis qu'on a annoncé la mort de Marc Moulin? Il y a vraiment une émotion, on voit ça sur Facebook, on reçoit des mails, tous les gens qui l'ont connu, puis les gens qui n'ont pas connu, qui se manifestent. Il faisait vraiment l'unanimité, non?
Marc était fort dans tous les domaines. Marc était un dessinateur extraordinaire.
Les BD de Marc étaient...
Qui faisait des BD. Par exemple, à l'époque de Radio Cité, il n'y a que les initiés qui le savaient, mais il faisait des BD sur les gens qui travaillaient à Radio
Cité.
Chaque semaine, on recevait une BD où il dessinait chacun dans son style. Quoi. Et ça nous faisait rire, évidemment.
À l'époque de King Kong, il y avait une directrice de la radio Bruxelles qui s'appelait Dean Adams, qui était sa bête noire à l'époque, parce que forcément c'était elle qui lui interdisait des choses, puisqu'elle était son chef direct. Et alors il faisait une BD sur elle qui était à hurler de rire. Enfin, l'équipe
C'est là l'humour aussi. Bon, évidemment, tout le monde connaît l'humour de Marc, l'humour à la radio, à la télévision, dans ses phrases. Mais dans la vie, c'était quelqu'un de très drôle.
Hein. Ah ben, j'ai une anecdote. Alors, nous avons une anecdote, Jean-Marie et moi, parce qu'on se demandait avant d'entrer dans le studio. qu'est-ce qui nous a fait le plus rire chez Marc? Et c'est une histoire avec Jean-Paul André. Donc ça se passe le soir, évidemment. Et c'est l'anniversaire de Marc. Et quelqu'un, je ne sais plus qui, a apporté un gâteau pour fêter l'anniversaire de Marc en studio pendant cette longue émission qui va de 8 à minuit. Et puis, il y avait les gens de la régie qui venaient présenter les écluses, la météo, les trucs colombophiles, etc. Et tout à coup, Marc a une sorte de chose bizarre qui se passe dans le regard. Il est en cabine, il prend le gâteau, il traverse le corridor de la place Flagey, il entre dans le studio et il envoie la tarte. Il entarte Jean-Paul André en direct. Et André, il faut bien le dire, a très bien réagi parce qu'il a dit c'est fantastique, c'est comme au cinéma. Mais donc il pouvait introduire comme ça à n'importe quel moment des choses tout à fait insolites.
Marc aimait beaucoup la Flandre également. Donc il était très fier d'être classé dans le pôle de Humo chaque année, soit avec son groupe, soit en émission radio et autres. Très vite, les Flamands l'ont accueilli, que ce soit au festival de jazz de Midelheim, etc. Marc était aussi très bruxellois et détournait les choses. Il, dans des albums de Placebo, il avait des titres qui étaient un peu compliqués et qu'il intitulait « Pâques Mauvaste » en bon bruxellois. Ouais, donc ouais. Le titre de l'album était là. Et à chaque chose était décalé. Marc voulait créer quelque chose, en donner la forme. Et dès que c'était lancé, il voulait recommencer autre chose et donner une autre forme. Il avait créé Placebo, qui était... Il y avait 8 musiciens. Et 3 mois après, il voulait en faire un trio acoustique, par exemple. Donc, et chaque fois, créer, détruire.
Pour nous qui avons été son assistant, c'est ça qui était un peu fatigant. C'est qu'on le voyait toujours partir, parce qu'il y avait toujours plein de projets. Et en tout cas, à l'époque de Radio Cité, il disait... Ouais, bon, évidemment, il y avait Lio, et puis un peu plus tard, Alain Chamfort. Mais c'était... J'ai toujours... Ah, j'ai une idée, je suis en studio parce que je dois faire ceci. Je dois faire cela. Et vous tenez le magasin, c'était ça aussi pour vous, j'imagine. Hein
oui, oui, surtout qu'il était musicien, donc il y avait plein de choses à faire à côté. Mais c'était un maître, hein. C'est quelqu'un qui enseignait, par exemple. Enfin, moi, cet homme m'a tout appris, je veux dire, dans mon métier. C'est extraordinaire. La conscience qu'il avait du public, qui est une chose difficile en radio, puisque par définition, on parle à des gens qu'on ne voit pas. Il avait une conscience incroyable du public, donc en le voyant travailler, on entendait ce qu'entendait le public. Enfin, c'était vraiment extraordinaire, comme leçon de choses, enfin, comme apprentissage du métier.
Michel Goethe, merci. Merci Jean-Marie Soyer. Merci d'être venu témoigner dans cette émission spéciale. On va écouter James Brown, tiens. Hein, James Brown.
C'est mon premier interview.
Il adorait James Brown.
C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Paul Hambach, qui est devenu célèbre.
On écoute.
Get up off of that thing and shake it, you feel better. Get up off of that thing.
Il est 9h41, spécial Marc Moulin jusqu'à midi sur La Première. Dans quelques instants, le témoignage d'un collègue de la VRT, Yann Otekit. Tout d'abord, oula, il n'aurait pas aimé Marc, un peu de pub. Il est 9h43, vous êtes sur La Première, spéciale Marc Moulin. Jusqu'à midi, nous ont rejoint Mamine Pirotte, bonjour.
Bonjour.
Et notre collègue de la VRT, Yann Otekit, bonjour.
Bonjour.
Mamine Pirotte, deux mots. Ici, on est quand même, les anciens sont quand même un tout petit peu sous le choc. Hein, depuis,
moi, je suis bouleversée.
Bouleversée.
Ah oui, vraiment.
On le savait, très malade, on savait que...
Je dis, oui, oui, on, je dirais de manière un peu triste, on s'y attendait, comme dirait l'autre.
Oui.
Mais vous savez, la mort, on a bon s'y attendre quand elle arrive. Elle est toujours injuste et toujours insupportable.
Parce que c'est quelqu'un ici à la radio, à la RTBF en général, Mamine, qui a eu énormément d'importance et qui était là et qui a construit cette maison. Hein,
écoutez, moi je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait une proposition à Marc de monter dans la hiérarchie. Et il a refusé. Et je trouve que c'est tellement... conforme à ce qu'il était. C'est tellement conforme à l'homme qui est d'une modestie qui était confondante, pardon, vraiment confondante, mais aussi un homme qui avait une forme de tendresse pour les gens et pour les choses et qui à la fois avait un grand, grand réalisme face à la vie. Je trouve que cette espèce de mélange en faisait un homme exceptionnel, vraiment exceptionnel.
Il a énervé plus d'un directeur ici. Dans
oui,
cette...
parce qu'il était trop,
il faisait trop de trucs. Hein.
Non, c'est un homme entier. Oui. C'est un homme entier. C'est un homme qui avait une fidélité à ses opinions, qui était inébranlable, à ses options, à ses amitiés, à ses amours. Enfin, c'était quelqu'un d'une fidélité vraiment extraordinaire. Mais moi, par exemple, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PD. Je lui dois beaucoup. Parce que quand on a lancé, il y a maintenant un grand nombre d'années, ce qu'on a appelé à l'époque le printemps de la radio, qui était une grande révolution radiophonique, nous l'avons fait ensemble. Et il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, et il a porté avec moi pendant 3 ans cette réforme de la radio. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé La Première, si vous en souvenez,
oui,
puisque
exact.
Nous sommes aujourd'hui sur La Première.
Oui.
Et vraiment, je lui dois beaucoup. C'est un homme d'une qualité humaine et d'une qualité professionnelle. J'en ai rencontré peu de ce format-là. Peu.
Yann Otekit, de la VRT. Merci Yann d'être venu. Vous êtes une star de la VRT, de la VRT Radio. Vous dites non comme ça de la tête, mais ne dites pas ça, c'est vrai. Est-ce que Marc Moulin était connu en Flandre? C'était quelqu'un qui était connu et apprécié, respecté en Flandre?
Apprécié, en tout cas, connu aussi, je pense, de ces dernières années, avec les trois albums qu'ils ont fait. Évidemment, il y avait Telex, évidemment, il y avait le travail comme producteur qu'il faisait, mais dont...
Et Radio Cité qui a bien marché.
Et Radio Cité qui a très bien marché. Mais je ne sais pas si les Flamands sont très conscients, et la génération un peu plus jeune, sont très conscients de la richesse du personnage et de cette talent multiple. Je ne sais pas si tout le monde connaît Marc Moulin vraiment, vraiment, vraiment dans tous ses talents.
Vous êtes, Yann, homme de radio, mais aussi musicien. Vous le connaissiez bien, Marc Moulin. En deux mots, pour vous, c'était qui?
C'était un grand frère pour moi. C'est très simple. Je reconnaissais autant de choses dans sa façon, sa vision, sa façon de voir les choses, de faire les choses, d'analyser les choses. Oui, c'était comme un grand frère. C'était aussi un exemple. J'ai connu Cap de Nuit, j'ai connu King Kong, j'ai connu Radio Cité. C'était un personnage absolument intriguant. Ne fût-ce que par les titres qu'il donnait aux morceaux, ça a été dit un moment. Des titres comme Themse, Balen, Dag Madame Merci. Et ça, sur cette musique très noire, très américaine, c'était un humour si belge, si reconnaissable. Mais si spécial.
Mais il n'y en a pas beaucoup, et on le remarque aujourd'hui quand on lit les journaux et les hommages. De ce calibre, on n'en a pas beaucoup des gens comme ça chez nous. Hein.
À mon avis, c'est la combinaison de talents multiples dans différentes disciplines. Il excellait dans différentes disciplines. Ce n'était pas quelqu'un... Parce que j'ai lu que c'était un touche-à-tout. C'était plus qu'un touche-à-tout. C'était quelqu'un qui faisait les choses à fond et qui voulait exceller dans toutes ses disciplines.
On était même parfois, si je puis me permettre, on était même parfois dérangeant.
Oui, c'était un peu énervant quand on travaillait avec lui.
Voilà, vous voyez, son côté perfectionniste, il allait jusqu'au bout des choses, était parfois terriblement...
Il y a un mot wallon, excusez-moi, Yann, spépieux, c'était ça. Et c'est tout le temps couper les trucs en quatre. Et c'était tout sauf un fonceur.
Oui, mais je pense aussi qu'il était très modeste, comme j'ai l'occasion de le dire, et d'autres aussi, d'ailleurs, beaucoup. Il n'était jamais content de lui. Je n'ai jamais vu Marc se congratuler lui-même et se dire ce que j'ai fait, c'était génial, c'était bien, alors que tout le monde autour de lui disait, mais lui, non, jamais, 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 jamais. Mmh. Il valorisait les autres parce que c'est un homme infiniment généreux. Mais lui, il n'était jamais content de lui, jamais.
Il a travaillé pour la VRT, Yann. Il a fait des jingles.
Il a fait l'habillage de Radio N en 2004 ou 2005.
Et ça a été facile de travailler avec lui ou...
Ben oui.
Oui.
Ben oui, ça a été dur. On a pris le temps pour finir le produit, mais c'était, on se comprenait. Évidemment, il avait son expérience radio. C'est plus facile d'expliquer ça à quelqu'un qui a fait de la radio qu'à un musicien quelconque.
Merci, merci Mamine, merci Yann Otekit. On va écouter maintenant quelqu'un que Marc aimait beaucoup, et puis surtout ce disque-là, en 1955, Live in Carmel. Voici Errol Garner. Errol Garner, Live in Carmel, ça c'est un disque de jazz que Marc Moulin vous aurait recommandé, parce que c'est un grand, grand Errol Garner. Alors, avec nous, deux anciens encore de la vieille garde, Alain Van den Abeele, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Et par téléphone, Jacques Mercier, bonjour.
Bonjour.
Jacques, merci d'être avec nous. On a dû vous convaincre, c'est un petit peu dur ce matin, mais il faut y aller, Jacques, il faut parler de notre marque.
Ben oui, mais comment dire, quand je pense à Marc, c'est plutôt l'ami proche depuis plus de 40 ans maintenant, qui me revient, et toutes les choses plus personnelles, donc c'est très difficile. Et de plus, comme on l'a déjà évoqué, je crois, il détestait ce genre de choses qu'on fait ce matin.
Oh, tant pis pour lui, Jacques.
Oui, c'est un peu difficile, voilà. Enfin, rendons-lui hommage.
Voilà,
oui.
Alors Jacques, parlons des rires. Alors, Alain Van Den Abel, Marc Moulin, et vous, Jacques Mercier, c'est quand même le rire. Hein. Qu'est-ce que vous avez rigolé ensemble hein?
Alors, on a beaucoup rigolé dans Cap de Nuit d'abord. Oui. Et déjà, ma participation, si vous voulez, à Cap de Nuit était déjà rigolote parce que il était venu me chercher. Parler tout à l'heure de son côté grand public et plus précis, plus culturel, plus pointu. Et en fait, j'ai lu dans le livre de Colgeon, d'ailleurs, qu'il avait dit qu'il m'avait emmené avec lui plusieurs fois pour avoir ce côté large public que j'avais eu par ailleurs avec Dimanche Musique. Et donc, dans Cap de Nuit, il s'était dit, c'est bien, moi je vais parler des choses très précises, disait-il, et toi tu parleras de la chanson française. Et comme il était très rigoureux, comme on le sait, finalement je faisais des listes de chansons, et il barrait tout, et il me restait évidemment Gainsbourg et Nougaro qui collaient avec lui. Ce qui fait que je passais la soirée, alors il aimait bien le contraste de nos voix, il avait cette voix grave qu'on connaît, prenante, et moi j'avais une voix plus aiguë que j'ai toujours, et donc il disait c'est bien parce qu'on va faire ça. Mais comme j'avais qu'un disque ou deux à présenter pendant deux heures, j'avais toujours l'impression, donc il y avait le ronronnement de Marc, bonjour, il parlait très sérieusement, puis tout à coup il disait « Et alors Jacques, dans la chanson française ?» Et alors c'est comme si je sortais d'une boîte comme ça, et je disais « Eh bien, nous avons Gainsbourg, etc. Et » Et après une saison où on était de rire, évidemment, on a changé les choses. Et à propos d'Alain, évidemment, il y avait des feuilletons. Il a toujours été adepte des feuilletons. J'ai entendu dans une interview qu'on repassait qu'il avait écouté, été nourri de la famille du raton, par exemple.
Voilà.
Au fond, à l'origine des Tilquins et de cette grande bablute.
Alors Jacques, ça c'est un moment fou de ma vie. Ouais. On est en 69, 70, 71, on est à la RTB, je veux dire. C'était quand même une époque où on osait tout faire, rappelez-vous, cher Jacques. D'abord, nous deux, on rigolait le matin comme des malades, à 7h moins quart, quand j'essayais de faire un bulletin sportif.
Oui, de fou rire le matin, je pense que c'est une chose qui n'existerait plus.
Non, mais on en a eu des terribles, notamment un jour, quand une femme d'ouvrage est entrée en pleine émission avec un seau et une serpillière.
Je me souviens.
Et lui,
nous avons commenté, oui.
Et merci, évidemment, on s'est mis du côté technique et me laissait seul avec un fou rire atroce. Mais la grande bablute, avec Hugues Lepage, avec Jean-Jacques Jespers, avec Willy Esterzone, avec Marc, avec Ria, on pourrait aussi toucher un petit mot quand même, avec toi, Jacques, etc. Ce feuilleton que j'écrivais au jour le jour et qui a tenu 3 ans, ça a été des moments... Je les ai en CD à Alain Neves, qui faisait toute la technique, je dirais, me les a un jour copiés. Et il y a des fous rires, mais absolument hallucinants. Et j'avais oublié une scène qu'on avait faite avec Marc, on avait fait un concours pour voir si les gens nous suivaient quand même, et on avait fait un concours, on avait dit aux gens, venez dans l'entrée, c'était encore flagey, avec des arrosoirs en plastique mou. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire.
Et les gens sont venus.
Il y avait 200 personnes avec des trucs qu'ils avaient fait fondre sur le feu, comme ça c'était épouvantable. Mais Marc, je dirais, Jean-Pierre, qui est entré, enfin ça on le sait très bien, j'ai encore même la première arrivée sur antenne de Jean-Pierre, que j'ai par hasard enregistrée.
Effacez-la, ça me fera plaisir.
Nenni, je vais un jour vous la passer. Et Jacques, je crois que philosophiquement on peut dire une chose à propos de Marc Moulin. Je crois sincèrement, on parle beaucoup de sa modestie, je dirais que c'est à nuancer. Il était quand même très heureux quand il réussissait quelque chose de bien.
Évidemment,
il travaillait terriblement bien. Il était... Enfin, j'ai entendu Jacques Bécart. Je veux dire, quelle émotion de réentendre ce personnage extraordinaire qu'est Jacques Bécart. Et Marc a toujours vécu dans un milieu qu'il choisissait en quelque sorte, de gens qu'il aimait, avec qui il pouvait discuter, développer des choses, que ce soit des musiciens, des journalistes, des philosophes, peu importe. C'est ça, Jacques, je trouve qu'on devrait sortir un peu de ce personnage. Il s'imbibait aussi des autres. Moi, je me rappelle, on a passé des nuits, des Nouvel An ensemble. C'était des discussions fatigantes. Je veux dire, on parlait de Nietzsche, on parlait de Spinoza, on parlait de beaucoup de choses, parce qu'il aimait cela. Et en même temps, avec d'autres, il était... musicien, il était plus léger, il écrivait ses pièces, mais il écoutait beaucoup les autres. C'était un homme qui avait l'art d'écouter et il a toujours été bien entouré. Et je pense à quelqu'un qui est Marc Francard, par exemple, qui était vraiment un homme remarquable.
Alain Van den Abel, je vous remercie. Hein, dans quelques instants, ça va être le journal de 10h. Jacques Mercier, on se retrouve tout à l'heure, Jacques. On va parler, on parlera avec les anciens de, et les actuels de, du jeu des dico, d'accord ? On parlera de Marc, ok ? À tout de suite, hein, Jacques. Restez avec nous.